RCF.
Bonjour fidèles auditeurs, auditrices de l'émission mensuelle sur la vie militaire dans le Cher et le Berry, présentée par l'association Agora Défense dans le cadre du Berry se raconte. Notre invité est lui aussi un fidèle de l'émission, c'est Jean-Pierre André, historien, conférencier, spécialiste des deux guerres mondiales, avec un attachement et une érudition admirable pour le 95e régiment d'infanterie. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Bernard.
Nous allons être aujourd'hui, Jean-Pierre, poète et historien. Par un régiment peu connu, mais profondément ancré à notre département, je veux parler du 408e régiment d'infanterie. Poète, grâce à Antoine Doer, sergent-major de la première compagnie du 208e régiment d'infanterie, instituteur dans le civil, qui a écrit l'histoire de ce régiment pendant la Première Guerre mondiale sous forme de poème. Vous, Jean-Pierre, historien, qui allez nous expliquer la réalité de ces poèmes. Alors commençons par la poésie. Le premier. Tu naquis à Meun, petit bourg historique, tout plein des souvenirs de Jeanne l'héroïque. Ton père fut Gatel, colonel au grand cœur, qui toujours te montra le chemin de l'honneur. Petit guerrier de France, âme noble et cœur d'or, quel sera ton destin? Tu es si jeune encore. Ce premier texte, je pose ma première question. Pourquoi Meun-sur-Yèvre, qui n'est pas à ma connaissance, une ville de garnison, Jean-Pierre?
Non, effectivement, Meun-sur-Yèvre n'est pas renommée pour son côté, son passé militaire. Cependant, en 1915, lorsque le 408e a été créé, Bourges était plein comme un œuf. Il était plein de réfugiés de l'Est, du Nord et de Belgique qui s'étaient enfuis devant l'avancée des Allemands. Il était plein de travailleurs qui étaient venus pour faire des armes et des munitions dans les arsenaux de Bourges. Il était plein d'hôpitaux, de militaires, de blessés. Il y avait aussi à Bourges les dépôts du 8e corps, les dépôts du 95e RI, du 37e RA, du 1er RA. Donc il n'y avait plus de bâtiments, il n'y avait plus de place de libre. Il a fallu trouver ailleurs et Meun était somme toute assez proche de Bourges.
Alors Meun-sur-Yèvre, êtes-vous en mesure de me donner les secteurs géographiques du recrutement de ces hommes? Sont-ils ce qu'on appelle des territoriaux ou des jeunes de la classe 1915?
Le recrutement de ce régiment, qui a été créé de toutes pièces en 1915, a été créé à partir d'hommes venant dans leur ensemble du 8e corps. Chaque régiment d'infanterie du 8e corps a fourni l'équivalent d'une compagnie, prélevée bien sûr dans les dépôts, pas sur le front. C'était les hommes donc, qui étaient soit des briscards, blessés ou malades ou évacués au cours des combats de 1914 et tout début 1915, et qui avaient été remis sur pied, si je peux dire. Et puis d'autre part, des jeunes, des bleus, ouais, du contingent 1915. Et puis, en ce qui concerne donc l'origine géographique de ces soldats, bon, ils venaient du Berry, du Morvan, du Nivernais, de la Bourgogne, mais aussi de Paris. Il y avait un assez fort contingent de Paris.
Alors, je vous ai posé cette question tout simplement qu'en 1916, sur le monument aux morts de la commune de Marmagne, vous avez deux soldats qui ont été tués et qui justement faisaient partie du 408e régiment d'infanterie. C'est pour ça que je vous ai posé cette question, Jean-Pierre.
Oui, effectivement, il y avait pas mal de berrichons dans ces rangs, hein, c'est évident.
Alors, le second poème que j'ai choisi, Le Fort de Vaux, du 2 au 11 mars 1916. Je vous lis la première strophe. Verdun est attaqué, vite il faut accourir. Les Français accablés se sentent défaillir. Balfourier devant Vaux est en péril extrême quand il voit arriver la belle 120e. Est-ce que vous pourriez nous rappeler l'importance de ce fort de Vaux dans la bataille de Verdun et surtout le rôle de ce 408e régiment d'infanterie?
Donc le 1er mars, ce régiment se met en position devant le fort de Vaux. Il s'agit d'empêcher la prise de ce fort, une des positions maîtresses de la ceinture de fort qui protégeait Verdun. Il est essentiel que les Allemands ne s'y installent pas et ainsi ils pourraient profiter de ce point d'appui pour casser l'arc de protection autour de la ville fortifiée. Donc c'était absolument essentiel de les bloquer avant qu'ils pénètrent dans Verdun. Voilà la raison pour laquelle on a bloqué devant Vaud.
Ce que j'ai bien compris, c'est que la résistance avait été particulièrement héroïque. Alors là, à Vaud, et le 408e régiment d'infanterie, c'est particulièrement illustré.
Alors, le pilonnage est insensé. insensé. Pendant 6 jours, avec quelques accalmies, cependant, parfois, toute l'artillerie lourde allemande s'acharne sur les positions du 408e. Canons et obusiers, 130, 150 mm, et plus redouté encore, 210 mm, 350 mm, des obus énormes qui s'abattent sans arrêt sur les positions. Les hommes sont absolument abasourdis. Le régiment est décimé. Décimé. Et ils tiennent.
Vaud, donc, c'est vraiment la fin, l'arrêt de l'avance allemande à Verdun.
C'est l'arrêt de l'avance allemande à Verdun, oui, dans cette zone-là, du moins. Hein.
Dans cette zone-là. Alors, le troisième poème concerne le secteur entre l'Aisne et l'Oise du 26 avril au 20 août 2016. Et si je l'ai choisi, vous allez comprendre pourquoi, Jean-Pierre. Si Verdun n'est pas pris, le fort de Vaud non plus. C'est grâce à vous, héros qui êtes revenus. Vous qui verrez plus tard les Cafaux, ses carrières, Tracy-le-Mont, Leval, Touvent et Quennevière. C'est le saillant Bétan, là c'est le poulailler, ici c'est le jambon, voilà les peupliers. Secteur dur et sanglant, où chaque compagnie rivalisait de gloire et pleurait trop de vie. En effet, j'ai remarqué que dans les nombreux écrits, en particulier les historiques des régiments, il est fort peu fait allusion aux morts. Les écrits sont toujours épiques. La mort est simplement effleurée, alors qu'elle est omniprésente, omniprésente. Ma question est simple, pourquoi cette pudeur? Le poème est de 1232, la censure a disparu. Et nous sommes dans l'impression que la guerre a été héroïque, j'oserais dire joyeuse. Alors, Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Parce que ça me surprend beaucoup. Et c'est vrai qu'on trouve relativement peu d'écrits qui nous montrent, si je pense à Maurice Genevoix, bien sûr, mais peu ont marqué ces souffrances qui est pourtant omniprésente, quotidienne. Jean-Pierre.
Ce que je peux dire, c'est que la guerre n'a pas été fraîche et joyeuse. Si dans l'action et pour maintenir le moral de l'arrière, il était de bon ton de parler d'entrain, de parler d'impatience d'aller au combat, de parler de crânerie, c'était un terme très, très en vogue. On sent déjà venir, dès 1905, les mutineries qui auront lieu en 17, le surgissement de cette chanson qui me fait à chaque fois tirer des larmes des yeux, la chanson de Crown. On voit bien que dans la réalité, il n'y a plus d'enthousiasme. Il n'y a que des hommes qui souffrent et qui meurent. Et qui espère que ça va se terminer.
Dans les lettres qui sont envoyées par les soldats pour leurs parents, leurs femmes, leurs fiancés, est-ce que cette inquiétude, on l'aperçoit ou est-ce que la censure interdit? Comment exprimer?
La censure l'interdit.
Ah, bien sûr.
Mais de nombreux courriers passent avec le sentiment des hommes sur cette guerre épouvantable. Et on a de nombreux témoignages de soldats écrivant à leur famille et décrivant un peu l'horreur de ce qu'ils vivent. Un certain nombre, je pense la plupart, essayaient de ne pas effrayer leurs femmes, leurs parents sur la réalité de ce qu'ils vivaient. Certains autres soldats, plus rares, mais ont décidé de ne rien cacher de cette horreur. Et je me souviens, il y a quelques... un ou deux ans, deux ou trois ans, avoir assisté à une conférence sur le courrier qu'avait échangé un soldat instituteur avec sa femme institutrice, où il s'écrivait tous les jours. Ce courrier était conservé. Il s'était promis de ne se rien cacher pendant toute la guerre. Et pendant toute la guerre, tous les jours, il écrivait les horreurs qu'il vivait au jour le jour. C'est absolument poignant.
Justement, est-ce que vous pourriez nous parler d'un ouvrage dont on a fait allusion?
Oui.
Mémoire de guerre de Romain Darchy.
C'est passionnant. Romain Darchy était un employé d'une étude de notaire de Sancerre, jeune employé d'une 19-20 ans, lorsqu'il a été mobilisé en 1915 au 408e régiment d'infanterie.
Il était du 408e.
Il était du 408e, c'est pour ça que j'évoque son cas. Et il a tenu un journal qu'il a remis au propre après la guerre, parce qu'il a malgré tout survécu à la guerre. Il a commencé comme deuxième classe, il a fini lieutenant, puis capitaine, ce qui était un homme courageux. Et il raconte au jour le jour sa vie à lui dans son régiment. C'est absolument poignant. C'est d'abord d'un très beau style. Il écrit superbement, il ne cache rien des horreurs qu'il vit, de la solidarité entre les hommes, de la misère psychique, psychologique, le fait d'être serrés les uns contre les autres. Je prends l'exemple dans le tunnel de Tavannes, par exemple, où ils sont restés, je crois, 2 semaines serrés les uns contre les autres, à ne pas pouvoir bouger. Et je ne vous dis pas pour les fonctions physiologiques. C'était une gamelle qu'on se passait d'homme en homme, et celui qui était au bout du tunnel jetait ça dehors, avec les risques en plus de ramasser un éclat d'obus parce que l'entrée était constamment bombardée. C'était humiliant, ils étaient mangés par les poux, enfin, il explique tout ça avec une crudité et une pudeur à la fois tout à fait extraordinaire.
C'est une belle carrière quand même, commencer deuxième classe, finir lieutenant et certainement capitaine,
oui,
c'est quelqu'un quand même un potentiel.
Il avait un potentiel, c'est sûr. Et puis, comment je dirais, les places se libéraient rapidement.
Je perçois tout à fait votre remarque. C'est-à-dire que les caporaux-chefs, sergents et lieutenants étaient en première ligne.
Oui, oui, oui. Juste pour finir avec Romain Darchy, si on a le temps, deux mots. Ce monsieur a disparu en 1944, fin 44, début 45, saisi par la Gestapo, alors qu'il faisait de la résistance. Il était un haut responsable de la résistance dans la région de La Flèche. Et on n'a jamais su ce qu'il est devenu. Il a été arrêté par la Gestapo, on n'en a jamais plus entendu parler. On n'a jamais su ce qu'il est devenu.
Un héros.
Un héros, certainement.
Qui avait souffert, combattu,
oui,
pendant toute cette Première Guerre mondiale, dont nous commémorons chaque année, le 100e anniversaire, 1916. Hein, 1916, l'année de Verdun. Alors, justement, vous aimez me poser la question, pourquoi est-ce que vous ne continuez pas sur le 408e régiment d'infanterie pour les autres années? Tout simple. J'ai pensé que l'année 1917 serait passionnante. Et passionnante de revoir aussi, de relire les poèmes de Dauer, qui nous montrent cette année 1917, qui nous savons, nous, que ce serait une année charnière importante dans ce cataclysme de la Première Guerre mondiale. Merci à vous, Jean-Pierre. Merci de ces détails poignants, saisissants, sur ce qu'ont pu souffrir ces soldats de la Première Guerre mondiale, en particulier cette année 16, et ces soldats du 408e régiment d'infanterie. Merci à vous, fidèles auditeurs et auditrices de Le Berry se raconte, et à très bientôt.